RCF.
Parcourir l'histoire des Journées mondiales de la jeunesse, c'est un peu comme se plonger dans un album de famille pour ceux qui ont participé, ne serait-ce qu'à un de ces événements. Depuis l'édition de Buenos Aires en 87, ce sont des millions de jeunes qui ont répondu à l'appel du pape, des jeunes de tous les continents et qui représentent aujourd'hui plusieurs générations. Mais au-delà de l'émotion ou des réserves que ces rassemblements suscitent, vous avez réalisé un travail d'historien au sens universitaire du terme, Charles Mercier. Bonjour à vous.
Bonjour.
Ce travail, eh bien, il est publié chez Bayard. C'est un livre qui s'intitule « L'Église, les jeunes et la mondialisation, une histoire des JMJ ». Charles Mercier, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Bordeaux. Et je précise que vous êtes membre de l'Institut universitaire de France. J'aimerais savoir ce qui donne envie à un historien de s'attaquer à un sujet comme celui-là. Est-ce que, j'anticipe peut-être un peu votre réponse, est-ce que c'est parce que le sujet est vierge finalement de toute étude historique?
C'est vrai qu'il y avait des approches sociologiques, voire géographiques de la question, mais pas véritablement de synthèse historique sur la question. Donc c'est vrai que pour un historien, s'aventurer sur des territoires vierges de toute recherche, ça a toujours un côté enthousiasmant. Et puis, je dois confesser, surtout à ce micro, qu'il y avait aussi un fond d'intérêt personnel, puisque j'ai moi-même expérimenté les Journées mondiales de la jeunesse étant jeune, notamment celle de Paris. Et revenir sur cet événement qui avait été marquant était une motivation personnelle, même si, comme vous l'avez bien dit, je me suis attaché à traiter l'événement en historien, en essayant de faire abstraction de mes intérêts propres.
Parce que sinon, il y a de l'émotion, il y a du ressenti, une implication personnelle qui pourrait, disons, parasiter un peu le travail ?
Oui, ça peut créer des biais de perception pour... Ne retenir que le côté positif de l'événement ou chercher dans l'expérience des autres une confirmation de sa propre expérience. Et le propre du travail de l'historien, c'est d'essayer de remettre en cause ses convictions, ses certitudes, tout du moins, à l'épreuve des archives et des sources.
Le titre de votre livre, c'est « L'Église, les jeunes et la mondialisation ». Et l'histoire des JMJ arrive comme un sous-titre. Pourquoi cette approche plutôt que l'inverse ?
Ah, vous savez, le titre,
c'est souvent l'éditeur qui le propose, c'est ça, ouais.
Et donc, je pense qu'il avait envie, mais je le rejoins pleinement, d'élargir la question au-delà du cas particulier que constituent les JMJ, à cette relation tout à fait stratégique et importante entre l'Église catholique, mais plus largement l'ensemble des religions, la jeunesse et la mondialisation, et étudier comment ces trois termes interagissent depuis les années 1980. Dans une époque de grande mutation.
Si on parle des Journées mondiales de la jeunesse, Charles Mercier, il est évident que le premier nom qui vient en tête, c'est celui de Jean-Paul II. Est-ce qu'il faut commencer par là pour comprendre l'origine des JMJ ?
Alors oui et non. Oui, parce que incontestablement, Jean-Paul II a une relation avec la jeunesse tout à fait extraordinaire, chaleureuse. Ça lui vient de son expérience d'aumônier d'étudiant. Depuis qu'il est vicaire de paroisse à Cracovie, et tout au long de son ministère de prêtre, d'archevêque, de cardinal, il a mis la jeunesse au cœur de ses priorités, et il a une capacité tout à fait exceptionnelle pour un homme d'église qui approche de la soixantaine, pour entrer en relation avec les jeunes, pour susciter l'enthousiasme. Mais l'importance que l'Église catholique accorde à la jeunesse ne remonte pas à son pontificat. C'est un mouvement de fond qui commence dès les années 1930, le pontificat de Pie XI. L'idée que, dans un contexte de sécularisation, où la foi se transmet de moins en moins automatiquement d'une génération à l'autre, les jeunes sont une cible prioritaire de l'évangélisation. C'est le moment de la vie où se font les choix déterminants. Et l'Église catholique n'a de cesse, depuis cette époque, de proposer des dispositifs pour essayer de rejoindre les jeunes dans leur foi.
Jean-Paul II s'inscrit dans cette dynamique, disons, un peu générale et puis qui le précède largement. Mais qu'est-ce qui explique que ces manifestations qui vont rassembler, je le disais dans l'introduction, des millions de jeunes au bout du compte, elles prennent forme avec son pontificat à lui? Il y a une espèce de conjonction là de divers éléments qui permettent que ça se fasse?
Non, c'est la rencontre entre une intuition et un contexte qui est favorable, qu'il avait d'ailleurs analysé. C'est-à-dire que la génération 68, qui était assez contestataire et qui avait rompu les ponts avec l'Église institutionnelle, est remplacée par ce qu'on a parfois appelé la génération X, les individus qui sont nés à partir de 1960, qui, contrairement aux baby-boomers, ont grandi dans un contexte de crise, qui ont eu des modèles familiaux beaucoup moins stables, qui ont subi aussi l'influence des médias beaucoup plus intensément durant leur vie adolescente, et qui, par rapport à l'institution catholique, n'ont pas de contentieux particuliers, qui sont prêts à se rassembler autour d'un pape âgé, et qui sont peut-être moins dans la contestation des normes du monde adulte que leurs prédécesseurs. Et ça rend de nouveau possible, alors que le dialogue avait été pratiquement rompu, des grands rassemblements qui ont été d'ailleurs initiés par les communautés nouvelles, qu'il s'agisse de Thésée, il y a le Concile des Jeunes en 74, ou par les Focolari ou Communion et Libération, qui réussissent à faire revenir les jeunes depuis le milieu des années 70, alors que la désaffection semblait assez générale.
L'univers proclame ses merveilles. Me voici, servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Me voici, servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole.
Quelle forme, Jean-Paul II, souhaite-t-il donner à ces journées mondiales de la jeunesse? Est-ce que d'ailleurs c'est sous cette forme-là dès le début que le projet est envisagé, des journées, ou bien on imagine plusieurs formules?
Alors ça se fait de manière très empirique, et il y a une part de contingence et de hasard. Au départ, le prototype des journées mondiales de la jeunesse, il se déroule en mars 1984 dans le cadre du Jubilé de la Rédemption. Jean-Paul II a voulu, durant l'année 83-84, mettre en place un jubilé extraordinaire pour célébrer la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et un prêtre, membre du mouvement Communion et Libération, soumet à la curie l'idée de créer un jubilé pour les jeunes. La précédente tentative sous Paul VI en 75 avait été catastrophique, et donc la curie est plus ou moins réticente vis-à-vis de ce projet, mais elle rencontre l'intérêt du Conseil pontifical pour les laïcs, présidé à l'époque par Monseigneur Cordès, qui relaie l'idée au pape, qu'il accepte, et la construction de l'événement finalement se fait beaucoup par l'intermédiaire de ces communautés nouvelles et du Conseil pontifical pour les laïcs, c'est-à-dire deux temps forts avec le pape et des temps en groupe plus restreint, animés par des communautés nouvelles dans différentes églises de Rome.
Ça n'est pas véritablement le pape qui initie les choses, c'est pas lui l'artisan.
Disons qu'il donne son soutien inconditionnel aux organisateurs et il appuie pleinement l'initiative, il est le moteur, il est le relais, il en fait la promotion lui-même dans ses différents déplacements en Italie. Il parle du jubilé des jeunes, par exemple lors de la messe de Pentecôte à Milan l'année précédente, pour essayer de faire venir les jeunes. Et donc il va même
il prépare le
donner
terrain.
Des valises d'argent liquide aux organisateurs pour faire face aux frais. Donc il est très très motivé dans cette initiative, mais le schéma qui lui est proposé, ce n'est pas lui qui l'a construit, c'est le président du CPL qui dîne avec lui, qui lui soumet un schéma qu'il accepte très très rapidement, mais c'est pas Jean-Paul II qui règle les détails et qui construit la maquette, si j'ose dire, du grand rassemblement.
Est-ce que la personnalité de Jean-Paul II, on aura certainement l'occasion d'en reparler, joue un rôle particulier dans ce processus de mise en route, ce qu'on appelait son charisme?
Indubitablement, il a fait la preuve lors de ses présents voyages pontificaux ou même de ses rencontres avec les Italiens, qu'il était capable d'électriser une foule de jeunes. Quand il est allé à New York en 1980, le New York Times a été sous le charme et avait titré « Pop Star » pour montrer le charisme de ce pape polonais. Et de fait, les organisateurs savent aussi que Jean-Paul II sera capable d'assurer le show, si j'ose dire. Et aussi un élément qui les fait tenir dans les difficultés, parce que cette première édition, ce premier prototype, n'est pas du tout simple à organiser du point de vue logistique.
Pourquoi?
Du point de vue aussi, parce que, par exemple, il faut héberger les 200 000 pèlerins qui s'annoncent à Rome durant le week-end. Les organisateurs avaient prévu de les faire camper dans une pinède au sud de Rome, et puis un mois avant l'événement, la mairie de Rome retire son agrément parce que Il y a eu des plaintes d'écologistes qui ont peur que les pèlerins saccagent la Pinède. Ils disent, ils les comparent au 1 ou à Attila ou au festivalier de Woodstock. Et donc, il faut loger en urgence des milliers de pèlerins. Et donc, ils vont se démener pour trouver des logements chez les habitants. Il y en a certains qui vont être logés dans les sous-sols du palais Saint-Calixte à Rome ou sur des balcons de cardinaux. Et donc c'est un défi logistique tout à fait extraordinaire auquel les Italiens réussissent, avec leur sens de l'improvisation, à répondre de manière très satisfaisante.
Parce qu'il faut rappeler que les deux premières éditions de ces Journées mondiales de la jeunesse ont lieu à Rome, en Italie. Qu'est-ce qui
En
va...
84 et 85, à un an d'intervalle.
Voilà. Qu'est-ce qui va donner ensuite le rythme d'un rassemblement tous les 2 ans dans une grande métropole?
Alors là encore, ça se fait de manière assez empirique. Donc Jean-Paul II, à la surprise générale, ravi de l'expérience de 84, annonce quelques semaines après qu'il faut renouveler l'expérience. Et faisant le lien avec l'année internationale de la jeunesse que l'ONU a décrété en 1985, il annonce qu'il y aura un nouveau rassemblement au Rambo 85, ce qui en fait terrifie un peu les organisateurs du Conseil pontifical pour les laïcs, notamment Mgr Cordes, que j'évoquais tout à l'heure, qui apprend la nouvelle devant la télévision alors qu'il prend quelques jours de repos dans son pays natal en Allemagne et qui n'a pas envie de replonger dans ce cauchemar organisationnel si rapidement, mais qui, par loyauté au pape, et s'exécuter. Alors quand le pape, à nouveau enchanté par la rencontre de 1985, dit qu'il faut pérenniser la formule, il y a dû avoir des conversations entre le président du Conseil pontifical pour les laïcs et le pape pour dire que le rythme d'une année était impossible à suivre, qu'il fallait faire une journée diocésaine en alternance avec un rassemblement international tous les 2 ans.
Charles Mercier, donner aux Journées mondiales de la jeunesse une dimension internationale en choisissant comme lieu de rassemblement une grande ville du monde tous les 2 ans, est-ce que c'est aussi une manière pour le Vatican de tenir compte de la mondialisation galopante et de l'ouverture des frontières et forme de globalisation?
Oui, effectivement, après les premières éditions qui ont lieu plutôt dans des sanctuaires de petites villes, qu'il s'agisse de Saint-Jacques-de-Compostelle en 89 ou Chesterova en 91, les éditions suivantes, Denver, Manille, Paris, Toronto, Rome, ont toutes eu lieu dans des mégapoles, dans des lieux qui sont aux premières loges de la mondialisation. Et c'est vrai que, de ce fait, c'était aussi un message de l'Église catholique pour proposer une autre mondialisation qui mettrait davantage en avant la fraternité. Et c'était effectivement faire entendre une voix différente dans ce processus qui s'accélère de manière spectaculaire au cours des années 90 avec la chute du mur, l'invention de l'Internet, la diminution spectaculaire des coûts du transport aérien et qui donc favorise des flux de plus en plus importants de marchandises, de capitaux et de touristes. Et là, en fait, faire bouger des pèlerins autour de valeurs religieuses et humaines, c'était aussi une manière de tirer profit de la mondialisation tout en essayant de la rendre plus juste.
Revenons à l'édition de 1987 qui a lieu à Buenos Aires, en Argentine. C'est la première donc qui est en quelque sorte délocalisée, si je puis dire. Est-ce que le Vatican craint un échec, un bide, et que les jeunes ne soient pas au rendez-vous?
Alors cette première JMJ est vraiment expérimentale et s'insère dans un voyage du pape en Amérique latine et le rassemblement qui a lieu le week-end des Rameaux le samedi soir à Buenos Aires est une sorte de point d'orgue du voyage pontifical et les organisateurs locaux ont bien senti que ça répondait bien, qu'il n'y aurait pas de problème de mobilisation. On est très peu de temps après la fin de la dictature et il y a une sorte de dynamisme du catholicisme qui fait qu'il n'y a pas de crainte spéciale quant à la réussite de l'événement.
Mais qui est invité? Seulement les jeunes Argentins, voire les jeunes catholiques d'Amérique latine ou bien c'est déjà un événement mondial?
Non, alors c'est en fait un événement très très argentin. Pour cette première journée expérimentale, les pays d'Amérique latine et les pays européens et nord-américains ont envoyé des petites délégations de pèlerins, mais les jeunes catholiques ont plutôt été invités à célébrer la Journée mondiale de la jeunesse chez eux, de manière nationale ou diocésaine. mais ils n'ont pas été incités à faire le voyage. C'est uniquement à partir de 1989 que la dimension internationale va vraiment se développer.
On peut dire que donc en 87, c'est une sorte de rodage, le rodage d'un système qui va pérenniser ces rassemblements. Dans votre livre, vous parlez d'ailleurs de système JMJ. Alors qu'est-ce que vous entendez par ce mot ?
Alors c'est essayer en fait par comparaison avec le système olympique d'aller dans les coulisses de l'organisation, de comprendre qui sont les protagonistes des préparatifs d'un tel événement et de voir comment s'articulent avec plus ou moins de difficultés leurs différentes initiatives.
Alors si on doit retenir les principaux acteurs de ces événements, ceux qui sont dans les coulisses justement, il faut citer qui ?
Alors il faut citer tout d'abord la Curie qui met en œuvre au nom du pape le rassemblement, qui est un peu la gardienne du concept, si j'ose dire, et qui va guider les organisateurs locaux en leur disant le capital d'expérience de leurs prédécesseurs, qui va leur dire bah, « écoutez, là, c'est pas tout à fait fidèle à l'intuition du pape ». Et donc, ce pôle de la Curie, principalement représenté par le Conseil pontifical pour les laïcs, mais interviennent également l'organisateur des voyages pontificaux et d'autres départements de la Curie, comme par exemple la salle de presse du Saint-Siège ou la secrétaire d'État qui va nouer des relations avec les pouvoirs publics pour voir quelles peuvent être les modalités d'accueil du pape.
Tout ce qui est structure locale, territoriale, sont sollicités de façon très importante.
Oui, oui, parce qu'il faut bien voir que le Conseil pontifical pour les laïcs, c'est un département très peu étoffé en ressources humaines. Et la section jeune spécifiquement consacrée à la préparation des JMJ sur la période du pontificat de Jean-Paul II, c'est 3, voire 2 personnes et qui sont donc bien incapables de porter les préparatifs d'un tel événement. C'est par rapport aux 80 personnes permanentes qu'il y a au Comité international olympique à Genève, c'est tout à fait dérisoire. Et donc, l'organisation est déléguée au diocèse d'accueil et de plus en plus aux conférences épiscopales. C'est là où les équipes d'organisation sont les plus nombreuses, où on a les comités qui mettent en œuvre les décisions et qui préparent d'un point de vue logistique et matériel le rassemblement.
Vous parliez de l'endroit où va loger le pape. Ça relève de l'église locale, d'un archevêché, d'une communauté religieuse ?
Il loge souvent à l'annonciature apostolique. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne peut pas loger dans une résidence officielle de l'état d'accueil pour des raisons de... Le Vatican est très attentif lors des JMJ à éviter toute récupération politicienne du pape par les chefs d'État ou par les chefs de gouvernement qui l'accueillent, qui pourraient vouloir capter à leur profit sa popularité. Et donc le pape, effectivement, loge dans un bâtiment religieux, dans un bâtiment qui appartient à l'Église catholique, pour éviter tout amalgame ou toute ambiguïté.
La suite de l'histoire.
Ensuite, il faut accueillir les jeunes. Et ça, c'est une autre énorme entreprise, parce qu'on parle là de centaines de milliers de personnes.
C'est peut-être pas le problème principal des différentes éditions, parce que finalement, à chaque fois, y a les particuliers, les catholiques plus ou moins éloignés de l'Église d'ailleurs, ouvrent assez généreusement les portes de leur logement. Et l'expérience qui s'est faite à Rome en 84, où les organisateurs avaient été obligés de loger chez les habitants les pèlerins en urgence suite à l'impossibilité d'occuper la Pinède, elle se renouvelle finalement assez facilement lors des éditions suivantes. Le principal problème, c'est l'aspect financier, puisque ce genre d'événement est extrêmement difficile à équilibrer et laisse des déficits plus ou moins faramineux à la fin.
Qui le finance alors justement ?
Alors, ça dépend des cas. En France, en 97, il y a eu une collecte organisée auprès de l'opinion publique et des catholiques qui a marché au-delà de toute espérance et les JMJ ont fini bénéficiaires finalement. Ça a dégagé un bénéfice de plusieurs milliers de francs à l'époque qui a pu être affecté à la pastorale des jeunes. Au Canada, ça a été beaucoup plus compliqué. Les fidèles n'ont pas eu envie de rattraper un événement qui avait pu être vu comme somptuaire par certains aspects et les diocèses ont dû vendre des actifs immobiliers pour éponger le déficit.
Qu'est-ce qui coûte cher?
En fait, tout coûte cher. Et ce qui est trompeur, c'est que les organisateurs comptent sur des recettes qui finalement ne viennent pas. Qu'il s'agisse du merchandising, par exemple, qui est expérimenté à Denver, les organisateurs se disent qu'ils vont équilibrer leurs comptes en vendant des t-shirts, des casquettes,
à l'effigie du pape ou des JMJ, quoi.
Oui, JMJ. Et finalement, ça marche, mais pas autant que prévu. Il y a un conflit avec la société qui est chargée de faire le merchandising. Et finalement, il y a très peu de royalties qui parviennent dans l'escarcelle des organisateurs. Par ailleurs, les quêtes qui sont faites aux messes, les jeunes ne sont pas un public très solvable. Et donc, ça explique le déficit qui s'en va. Et puis après, les écrans géants,
la sonorisation,
monter les lieux des rassemblements, la sonorisation, c'est des budgets qui sont énormes. Il faut payer aussi le déplacement des évêques catéchètes qui sont invités par les organisateurs et dont tous les frais sont pris en charge par le comité local. Et ces 500 évêques... Donc il faut payer l'hébergement, le transport et la nourriture pendant plusieurs jours. Donc c'est vraiment des sommes importantes qui sont de l'ordre de plusieurs millions d'euros.
Sans compter le coût que ça peut représenter pour certains jeunes qui sont obligés de faire un trajet en avion et d'avoir un peu d'argent pour pouvoir tenir les jours qu'ils vont passer dans le pays en question.
Oui, alors de ce point de vue-là, il y a des mécanismes de solidarité qui sont mis en œuvre dès les premières éditions parce que c'était une volonté de Jean-Paul II que des jeunes de pays du Sud et de l'Est de l'Europe puissent participer et vaincre les obstacles financiers ou les obstacles de visa qui empêcheraient leur participation. C'était une manière aussi d'humaniser la mondialisation et de permettre que la mobilité facilitée profite à tous et pas uniquement aux jeunes du Nord. Et de fait, les JMJ ont été des opportunités extraordinaires pour des jeunes des pays du Sud et de l'Est de franchir des frontières à des coûts défiant toute concurrence. Et de ce point de vue-là, d'un point de vue très cynique, pour faire du tourisme, il n'y a pas plus économique que des JMJ.
Comment se situent les pouvoirs publics des différents pays et des villes qui accueillent les Journées mondiales de la jeunesse?
Il peut y avoir de l'ambivalence et une forme d'inquiétude chez certains représentants de l'autorité publique. J'avais été notamment marqué pour la JMJ de 1993 à Denver par la figure du shérif Sullivan d'un comté proche de Denver qui fait une sorte de chantage aux organisateurs pour qu'ils prennent en charge les frais de sécurité parce qu'il a des besoins financiers pour construire un abri anti-atomique. Il leur réclame 500 000 dollars pour sécuriser le rassemblement. Et ce envers quoi les organisateurs protestent, ils médiatisent l'affaire et ils vont obtenir gain de cause finalement. D'autres peuvent voir d'un mauvais œil le déferlement de pèlerins dans des espaces naturels. Ils peuvent avoir peur de l'empreinte écologique. Il y a en France des contestations qui ont pu être faites au nom de la laïcité. Mais de manière générale, quand une JMJ est accueillie dans un pays, c'est que les autorités épiscopales ont eu l'accord préalable des présidents de la République ou des chefs d'État ou de gouvernement. Et de fait, les chefs d'État et de gouvernement voient généralement l'opération d'un bon œil. C'est un moyen de faire de la diplomatie, un moyen aussi de promouvoir l'image du pays à l'international, de renforcer la cohésion sociale. Et donc, ils apportent leur aide, même dans les pays de séparation entre l'Église et l'État, comme c'est le cas en France ou aux États-Unis, où les pouvoirs publics, sont très coopérateurs avec les organisateurs.
Quand on parcourt l'histoire des Journées mondiales de la jeunesse, comme vous l'avez fait en tant qu'historien, Charles Mercier, est-ce qu'on repère une évolution assez marquante, une dynamique qui en fait quelque chose d'inédit, de vraiment très, très particulier?
Alors, on repère des constantes d'une édition à l'autre. C'est frappant de voir en fait comment les choses finalement se mettent en place très vite dès 1984-1985. Ce qui est vraiment structurant, c'est la grande veillée autour du pape le samedi soir et la messe de clôture le dimanche. Et c'est en quelque sorte le noyau autour duquel vont venir se greffer d'autres modules au fur et à mesure que les éditions avancent, avec des ingrédients qu'on retrouve à chaque fois. L'expérience de la foule croyante, la mise à l'épreuve du corps aussi à travers le pèlerinage, parce que être dans un grand rassemblement, ça met les corps à rude épreuve, qu'il s'agisse du manque de sommeil, de la promiscuité, ou parfois de la marche qu'il faut accomplir pour rejoindre le lieu du grand rassemblement. Le but étant de favoriser l'expérience spirituelle et la conversion du participant. Et c'est sans doute ça qui fait la coloration propre des GMJ. C'est permettre, à travers tous ces dispositifs, d'ancrer profondément dans l'esprit des participants une expérience très forte de foi.
On voit que cette expérience, elle croît, disons, de plus en plus au fur et à mesure que les éditions passent.
Je dirais que ça prend des tournures différentes et quand j'ai interrogé les personnes qui ont suivi les différentes éditions, notamment au Conseil pontifical pour les laïcs, il y a une permanente qui s'appelle Giovanna Guerrieri qui a assisté à toutes les GMJ depuis leur origine et elle voit pas forcément d'amélioration d'une fois sur l'autre, elle ne hiérarchise pas comme s'il y avait un progrès continu. Elle voit en fait des expériences fortes qui prennent une coloration différente dans chacun des pays d'accueil en fonction aussi de la sensibilité nationale. Par exemple, ce qui s'est passé en Pologne en 91 a été extrêmement marquant du fait de la retrouvaille entre les jeunes d'Europe de l'Ouest et les jeunes d'Europe de l'Est. Il y a une sorte de dynamique qui se crée extrêmement émouvante selon les souvenirs des participants. Mais pour d'autres, ce qui s'est passé à Manille, un pays du Sud qui confronte les jeunes occidentaux à la misère des bidonvilles est extrêmement marquant aussi. Donc, à chaque fois, il y a une sorte d'ingrédient propre.
Et d'inculturation.
Et d'inculturation, alors ce qu'on appelle en sciences sociales la glocalisation, c'est-à-dire la capacité à exporter un produit et à l'adapter aux spécificités culturelles locales. C'est tout à fait frappant, notamment dans les discours du pape. On voit que ce qu'il dit à Denver n'est pas identique à ce qu'il dit à Paris. Dans un cas, il insiste davantage sur les questions life issues, tandis qu'à Paris, il va être davantage sur des questions de justice sociale. Mais c'est aussi vrai, par exemple, pour l'âge des participants. Aux États-Unis, on considère qu'on peut faire une GMJ à partir de 13 ans. En France, c'est à partir de 18 ans. Et c'est pour une bonne part une adaptation au dispositif de pastoral qui existe sur place.
Vous parlez des discours du pape, Charles Mercier. Est-ce que vous avez le sentiment que le choix du lieu relève aussi d'une volonté diplomatique ou même qu'il y a un message politique dans le fait de venir dans un pays qui peut-être n'est pas très favorable à l'Église catholique ou qui ne respecte pas tout à fait les valeurs qu'elle prône?
Au départ, c'est le pape qui choisit les endroits. Saint-Jacques de Compostelle, il aurait eu cette idée dans l'avion qui l'emmenait à Buenos Aires en 87.
Jean-Paul II, donc.
Effectivement, hein. Oui, Jean-Paul II, c'était en fait un lieu symbolique pour lui qui symbolisait les racines chrétiennes de l'Europe, le tombeau présumé de Saint-Jacques étant une sorte de point de ralliement depuis le Moyen-Âge. Donc il y avait un message politique à l'heure où l'Europe pouvait se réunifier. 91, c'est le même symbole, c'est les deux poumons de l'Europe, c'est l'idée que les peuples de l'Est et de l'Ouest peuvent se réunifier autour de valeurs communes dont l'Église est la promotrice. Après, c'est beaucoup moins le pape qui va décider, c'est des initiatives des conférences épiscopales qui candidatent, un peu comme des pays candidatent pour l'organisation des Jeux Olympiques. Et donc le pape laisse la main aux épiscopats nationaux dans le choix du lieu.
On a aussi le sentiment qu'un souci d'équilibre entre les différentes zones géographiques, de façon à ce que ceux qui n'ont pas été vraiment concernés la fois précédente puissent l'être la fois suivante, l'Asie, l'Amérique, l'Europe. Est-ce que vous avez ressenti ce souci-là?
Oui, alors il y a vraiment un effet, et ça fait partie de la stratégie de globalisation, de faire circuler la GMJ pour qu'elle devienne vraiment un événement mondial. C'est la même stratégie que celle de Pierre de Coubertin à la fin du 19e siècle, quand il dit « les Jeux Olympiques restaurés ne doivent pas avoir lieu à Athènes ». Eh bien là, Jean-Paul II se dit que les GMJ ne doivent pas toujours avoir lieu à Rome. Il faut qu'elles circulent pour agréger de plus en plus de jeunes de pays différents. Et c'est vrai qu'une fois qu'une GMJ a fait escale dans un pays, les jeunes, souvent, ont envie de participer à la GMJ suivante, même si elle se déroule à plusieurs milliers de kilomètres de chez eux. Dans le dispositif, c'est l'Afrique qui, pour des raisons logistiques, est restée à l'écart. Il avait été un temps envisagé que la GMJ de 97 ait lieu en Afrique, les organisateurs y ont renoncé parce que ils ont pensé que ce serait logistiquement impossible. Et la France, pour être choisie, a mis en avant ses liens avec l'Afrique. Et le cardinal Suger avait dit au pape qu'il ferait tout pour que beaucoup de jeunes Africains puissent participer à cette GMJ parisienne.
Ça a été le cas?
Ça a été le cas dans une certaine mesure, puisque le Vatican a négocié avec le ministère des Affaires étrangères et le premier ministre de l'époque, Alain Juppé, la gratuité des visas pour les jeunes des pays d'Afrique et une procédure très simplifiée pour avoir le droit de franchir la frontière. Et de fait, grâce à cette aide accordée par la France, grâce aussi en fait à des soutiens financiers à la fois publics par le ministère de la Coopération et de transfert d'argent intra-ecclésiaux, plusieurs milliers de jeunes Africains ont pu être présents à Paris.
À la fin de votre livre, vous proposez un tableau assez intéressant concernant les chiffres de participation, avec une colonne montrant le nombre d'inscrits, le nombre de participants à la veillée et les participants à la messe finale. Est-ce que vous pouvez nous commenter en quelques mots ces chiffres ? Qu'est-ce qui vous a frappé, vous, quand vous avez travaillé sur ce tableau ?
Alors, ce qui est frappant, c'est le record, c'est sans conteste les Philippins qui l'ont, hein, avec... plus de 3 millions de participants à la JMJ de Manille dans un archipel extrêmement catholique où les jeunes sont très nombreux et où les organisateurs ont dû décourager une partie des jeunes des diocèses de venir à Manille pour éviter une sorte de paralysie complète de la ville. Donc ils auraient pu rassembler encore plus de jeunes. Ce qui est frappant dans ces chiffres, c'est que les pays plus sécularisés, comme la France ou le Canada, font finalement aussi bien, voire mieux, que les pays qui sont encore très catholiques à l'époque, comme la Pologne ou l'Espagne. Et l'hypothèse que j'en tirais, c'est que les JMJ, elles ont d'autant plus de succès quand elles tiennent dans des endroits où les jeunes catholiques ont le sentiment d'être en minorité dans leur environnement quotidien.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que le stade plein est une conséquence logique de l'église vide quand on ne peut plus, quand on est jeune, retrouver des pères à l'église. Un dispositif comme les JMJ est d'autant plus attractif parce qu'elle permet de recréer un sentiment de communion, de communauté entre pairs qui n'existe plus dans la vie quotidienne. Et donc je pense que pour un jeune Français, c'était d'autant plus attirant de participer à une JMJ en 97 que c'était une expérience devenue impossible dans la routine et dans le quotidien paroissial.
Un sentiment d'appartenance à un groupe qui, là en l'occurrence, se trouve très important.
Oui, c'est ça, le sentiment du nombre, alors que l'expérience quotidienne est plutôt celle de la minorité ou celle d'être un peu décalé par rapport à ses camarades de lycée ou d'université. Et le sentiment aussi d'une certaine fierté, alors qu'il peut y avoir assez fréquemment chez ces jeunes pèlerins le sentiment d'être vu avec une certaine commisération ou incompréhension par leurs proches.
Pour terminer, Charles Mercier, vous avez précédemment expliqué que des conditions très favorables sur le plan financier étaient souvent mises en œuvre pour permettre à tous les jeunes de participer, à tous les jeunes, autant que possible, de participer à ces journées. Malgré tout, est-ce que vous avez le sentiment que ça reste un événement qui draine une jeunesse plutôt favorisée ou pas ?
Alors la réponse est nuancée. Quand on regarde la population des JMJistes qui viennent de l'étranger, incontestablement, ils appartiennent souvent aux couches favorisées. L'enquête qui avait été faite par le journal La Vie sur les participants à la JMJ de Cracovie, les jeunes participants français, montrait que la proportion de cadres supérieurs, d'enfants de cadres supérieurs, était très très supérieure à la moyenne française, et inversement la proportion d'ouvriers très inférieure aux moyennes françaises. Quand on regarde les chiffres des participants autochtones, là, l'écart est bien moindre et les JMJ réussissent à fédérer au-delà du noyau des convaincus qui sont souvent en France des catholiques bourgeois vers les milieux plus populaires. Les participants italiens, quand on regarde leur origine sociale, c'est également relativement diversifié. Donc ça dépend vraiment du pays.
Ou de la sociologie, quoi.
Oui, de la sociologie du catholicisme dans chacun des pays, mais aussi en fait du fait de savoir si le quel est le coût pour accéder au rassemblement. Si c'est des pèlerins qui habitent sur place, qui habitent juste à côté de la ville d'accueil, le profil sociologique n'est pas déterminant. En revanche, s'il faut faire plusieurs milliers de kilomètres et débourser plusieurs milliers d'euros pour participer, là, les classes favorisées sont surreprésentées.
Un pape très charismatique, Jean-Paul II en l'occurrence, pour les premières éditions des Journées mondiales de la jeunesse, des millions de jeunes rassemblés, ou des centaines de milliers, disons, des pays divers et variés. Charles Mercier, est-ce qu'on peut dire qu'on a là tous les ingrédients qui pourraient susciter l'intérêt des médias?
Oui, tout à fait. Tous les ingrédients qui sont susceptibles de susciter la curiosité des journalistes. Alors, il faut dire que les organisateurs s'emploient à titiller leur appétit pour la chose et de manière très précoce.
De quelle
Du moins,
manière?
c'est très frappant, notamment à partir de l'édition de Denver. La directrice de la communication, qui est une religieuse tout à fait extraordinaire, Marianne Walsh, qui a été journaliste, est nommée directrice de la communication et elle établit un plan de communication extrêmement professionnel en décidant que il faut donner des histoires à raconter aux journalistes et leur fournir du contenu, leur fournir accès à toute l'organisation. Tout doit être en quelque sorte transparent, avec pour contrepartie le fait que l'organisation doit être hyper disciplinée pour que les messages soient conformes aux objectifs de l'organisation. Et donc cette religieuse va essayer de dénicher des histoires que les journalistes peuvent raconter. Ça va par exemple des fermiers du Colorado qui fournissent du blé pour les hosties de la messe finale avec le pape, à la papamobile qui est fabriquée au Mexique, et donc plein de petits éléments qui permettent en amont de l'événement d'installer la JMJ dans l'opinion publique et de préparer les journalistes à le couvrir de manière importante.
Parce que l'idée, c'est quand même effectivement qu'on parle de l'événement un peu partout dans le monde.
Oui, tout à fait. Alors, cette religieuse sœur Anne-Marie Walsh a cette phrase extraordinaire en disant, il y a plein de choses magnifiques qui se passent chaque jour, mais dont personne n'est au courant et qui du coup n'existent pas. Et donc, pour elle, c'est les médias qui font exister les choses, qui créent l'événement. Et Lustiger, Monsieur Lustiger en 97 sera également sur cette ligne. Pour lui, l'événement est foncièrement médiatique. C'est parce qu'il est relayé par les médias qu'il va toucher les jeunes, qu'il va être évangélisateur, et il fait tout également pour que les journalistes s'intéressent le plus possible au rassemblement des jeunes et du pape.
Justement, le pape, j'aimerais qu'on revienne quand même sur cette dimension-là. Vous avez vous-même employé cette expression au début de nos rencontres, Charles Mercier. On peut dire que Jean-Paul II assure le show.
Oui, il assure le show, même quand il devient vieillissant. C'est tout à fait intéressant de voir comment il déjoue les pronostics des journalistes, et ça contribue d'ailleurs à la réussite de la communication de l'événement. Malgré les efforts des organisateurs, les papiers qui paraissent sur les GMJ, notamment en 97, en 2002, sont plutôt irrévérencieux pour le pape, en le dépeignant, je grossis un peu le trait, mais comme un vieillard un peu gâteux et réactionnaire. Et quand le pape arrive sur le tarmac de l'aéroport, il y a une sorte de charme qui opère. Il se montre en fait aux journalistes sous un visage qu'ils n'avaient pas anticipé, ils s'en retrouvent comme déstabilisés, et à partir de ce moment-là, le traitement du pape et de la rencontre qu'il a initiée change complètement. Le pape devient un grand-père charismatique, une figure respectée par les jeunes, et il y a une sorte de retournement qui peut s'opérer à ce moment-là.
C'est donc ce qu'on appelle le charisme.
C'est le charisme, oui, qui perdure même dans la vieillesse.
On le voit d'ailleurs esquisser des pas de danse à la fin d'une veillée, on le voit, on
Faire
l'entend.
tournoyer sa canne comme Charlie Chaplin lors
Imiter
de la JMJ de
Chaplin.
Manille.
Ouais, c'est ça, avoir des mots paternels ou comme vous avez parlé de grand-père vis-à-vis des jeunes qui, du coup, se régalent. Parce que ce pape, qui par ailleurs ne mâche pas ses mots, ne fait aucun compromis en termes d'évangélisation et de mission qu'il confie aux jeunes, bah, il sort malgré tout un peu du cadre par moment.
Oui, c'est ça qui fait aussi sa puissance d'attraction, c'est que il est accueilli avec les honneurs d'un chef d'État par le chef d'État ou de gouvernement. Et là, en fait, quand il revient au milieu des jeunes, quand il arrive dans sa papamobile et puis qu'il s'installe sur le podium, il redevient en quelque sorte un jeune parmi les jeunes. À Manille, par exemple, il y a des jeunes qui scandent le surnom qu'il avait quand il était jeune, Lolek, Lolek, comme pour l'identifier à l'un d'entre eux, et le pape les arrête en disant « Lolek était un jeune, Jean-Paul est un vieux ». Et là, la foule reprend de plus belle « Lolek, Lolek », ce qui fait rire le pape, et c'est là qu'il se met à faire tournoyer sa canne comme Charlie Chaplin, et à prendre les mains des jeunes qui sont autour de lui pour se balancer au rythme de la mélodie qui est jouée à ce moment-là.
Donc là, les jeunes sont sous le charme, là.
Oui, il y a un mixte de prestige et de proximité qui fonctionne à merveille. Et puis, il y a aussi le jeu des caméras, c'est-à-dire que Jean-Paul II a une présence très forte avec les personnes qu'il rencontre, un regard transperçant, une sorte de magnétisme, d'attention aussi aux blessés de la vie, aux personnes issues des minorités, qui sont capturées par les caméras. Et donc, l'effet de zoom que permet la caméra rajoute à la charge émotionnelle de la rencontre, parce que chacun des participants peut lire les plis de la prière dans le visage de Jean-Paul II, peut-être mieux que le cardinal qui est à 2 mètres de lui. Et donc, ça crée un sentiment de proximité qui est pour partie artificiel, mais qui est tout à fait efficace en termes d'émotion, de contagion émotionnelle.
Ajouter à ça le fait que les JMJ s'associent des artistes en termes de médiatisation, évidemment c'est un atout.
Alors effectivement, même si les organisateurs sont vigilants à ne pas voler la vedette au pape, Céline Dion avait chanté pour le pape en 84, ce qui a lancé sa carrière, mais c'était pas dans des JMJ, et les artistes qui sont invités sont des artistes qui n'ont pas la notoriété d'un Michael Jackson ou d'un... C'est des artistes qui ont du talent, qui parfois sont un peu passés de mode, qui ont eu leur heure de gloire, mais qui sont un peu sortis des radars depuis un certain temps, et qui peuvent éventuellement relancer leur carrière à l'occasion des JMJ.
Des entreprises osent s'associer à cet événement, des entreprises locales?
Oui, alors elles ne se font pas énormément prier d'ailleurs, parce que beaucoup y voient une opportunité de gagner des parts de marché dans la mondialisation. Maurice Lévy, le PDG de Publicis, qui était un partenaire très fort de la JMJ de 1997,
à Paris.
qui avait dit faire croquer des biscuits lus à 100 000 jeunes d'Europe de l'Est, c'est un formidable moyen pour Danone, qui est propriétaire de Lu, de s'étendre dans de nouveaux pays. Et donc, c'est l'occasion de placer des produits auprès d'une clientèle jeune, de faire connaître une marque à l'international. Et Sodexo, par exemple, ou Lafarge ont financé les JMJ dans le cadre du mécénat, mais aussi avec des objectifs d'image de marque qui se sont révélés plutôt efficaces.
Donc on voit quand même que ça suscite aussi des stratégies commerciales, des stratégies tout court.
Mais tout à fait, les deux sont mêlés. Et les hommes d'église, d'ailleurs, n'hésitent pas à... Ils ne veulent pas commercialiser le pape, mais ils n'hésitent pas à commercialiser les JMJ pour équilibrer leur budget. Donc aux États-Unis, c'est McDonald's par exemple qui fournit les repas à tarifs très compétitifs en échange de publicité sur les stands. Il y a un partenariat tout à fait intense avec le monde de l'entreprise qui permet à l'Église catholique de renouer le lien avec cette sphère dont elle s'est progressivement déconnectée. Alors pour reprendre une expression de Jacques Le Goff qui avait dit distinguer au Moyen-Âge le temps des marchands et le temps de l'Église, les JMJ c'est un moment où le temps des marchands et le temps de l'Église peut se resynchroniser brièvement.
Est-ce qu'on peut aussi parler de dimension interreligieuse dans ces JMJ, ou bien on est vraiment entre cathos?
Alors ça dépend des éditions. En 84, lors du prototype romain, il y a une rencontre qui est ménagée entre des catholiques et des bouddhistes, une jeune délégation de bouddhistes qui a répondu à l'appel du pape. Les participants au forum des jeunes, qui est une sorte d'événement au sein de la JMJ, avec des délégués de chaque pays, ont une rencontre interreligieuse, quelles que soient les éditions. Mais cette dimension interreligieuse a plutôt tendance à diminuer au cours de la période, parce que les responsables catholiques craignent que les JMJ soient une sorte de sas de sortie pour les participants. Ils disent que le but des JMJ, c'est d'ancrer les participants dans le catholicisme et non pas leur faire découvrir le pentecôtisme ou d'autres familles spirituelles et religieuses, et qu'il faut d'abord les enraciner dans leur tradition religieuse avant de leur permettre de dialoguer avec les représentants des autres religions. Donc c'est une phase d'initiation et d'enracinement dans une tradition qui invite ensuite à rentrer en dialogue avec les autres familles spirituelles, mais ce n'est pas l'objectif propre des JMJ.
Pour conclure cet entretien, est-ce qu'on voit certains incidents marquer les Journées mondiales de la jeunesse ? Est-ce qu'il y a des incivilités, voire des drames ?
Alors, à la marge, il y a des drames, il y a des décès presque chaque édition, mais qui sont vraiment pas imputables à l'organisation. C'est souvent des crises cardiaques, de pèlerins âgés.
On se souvient d'accidents de la route aussi. Hein.
Oui, alors d'accidents de la route, des crises d'asthme. Mais sur le million de participants, c'est extrêmement marginal, même si ça peut évidemment marquer le groupe dans lequel ça intervient. Il y a eu des histoires aussi de viols, de pèlerines, mais pas forcément par des pèlerins des JMJ. Dans l'ensemble, ce qui frappe les forces de police, c'est que c'est extrêmement pacifique pour un rassemblement de jeunes. Quand on regarde les fiches d'incidents de Paris, ce qui remonte au PC sécurité, c'est trois vols de sacs de couchage à Longchamp, un échauffouré entre un participant et un policier qui ne veut pas le laisser rentrer sur le site. C'est vraiment dérisoire en termes de grand rassemblement. Et de fait, les forces de l'ordre sont plutôt conquises par les jeunes. Des jeunes polis qui disent bonjour, qui... C'est plutôt, en fait, une excellente opération en termes de relations publiques pour l'Église catholique, parce qu'elle donne à voir des jeunes croyants, heureux, et en même temps extrêmement pacifiques, extrêmement accueillants, respectueux de la population qui les accueille. Et la population de la ville d'accueil est plutôt sous le charme, après avoir été parfois réticente.
On se retrouve demain pour conclure. Charles Mercier, pour écrire votre livre, je rappelle, paru chez Bayard, qui s'intitule « L'Église, les jeunes et la mondialisation, une histoire des JMJ », est-ce que vous avez réalisé des sortes de sondages auprès de ceux qui ont participé à ces Journées mondiales de la jeunesse, à quelques-unes d'entre elles ? Qu'est-ce qui est ressorti d'éventuelles rencontres avec ces personnes ?
Oui, effectivement, j'ai eu la chance d'aller interroger des vétérans des JMJ sur quatre continents. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir des similitudes d'expérience, à quel point ces JMJ avaient été pour ces anciens participants des moments de plénitude. Alors évidemment, l'enquête est un peu biaisée parce que ceux qui répondent à la demande, c'est ceux pour qui les JMJ ont été marquantes. Il faudrait aussi réussir à faire parler tous ceux pour qui elle a été un événement insignifiant. Mais c'est tout à fait frappant de voir que souvent ça a été un événement fondateur dans leur vie et qu'il s'y est passé une sorte d'expérience de plénitude ou d'expérience des sommets qui a pu prendre différentes formes mais qui a souvent des points communs d'un point de vue de ressenti.
Fondement, ressenti, plénitude, est-ce que là vous vous situez d'un point de vue spirituel, d'expérience spirituelle ou ça inclut d'autres dimensions ?
Alors, c'est quelque chose qui peut être abordé en psychologie de la spiritualité ou psychologie de la religion. Ça a été traité en psychanalyse, en psychologie, le sentiment océanique, c'est-à-dire dans lequel on a l'impression qu'on est relié de manière particulièrement harmonieuse à ses semblables ou au reste du monde.
Une sorte de communion, quoi.
Voilà, de dilatation du soi, mais qui est vraiment heureuse, le sentiment d'être aimé, le sentiment aussi que l'univers a du sens. Quelque chose qui est de l'ordre, finalement, de la transfiguration, si on en parle en langage chrétien. Quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui émotionnellement est extrêmement marquant et qui va donner du courage pour le quotidien, pour la grisaille, pour la routine, une fois qu'on sera redescendu du Tabor.
Une des grandes objections qui a été faite à l'égard des Journées mondiales de la jeunesse, c'est de les soupçonner, disons, de n'être qu'un feu de paille et que cette transfiguration, elle est peut-être très intense, cette expérience, elle est très forte d'un point de vue émotionnel, mais qu'au bout du compte, il n'en restera pas grand-chose. Quel a été votre sentiment, vous, quand vous avez rencontré ces témoins ?
Alors, les témoins que j'avais rencontrés, c'était une expérience qui restait structurante dans leur vie. Certains ont décidé de devenir, de consacrer leur carrière à la pastorale des jeunes. C'est le cas notamment de Paul Jarzembowski, qui est aujourd'hui responsable de la pastorale des jeunes pour la conférence des évêques aux États-Unis et qui avait participé à 16 ans à la JMJ de Denver. Je pense aussi à Jasmin Lemieux-Lefebvre, qui avait participé à la JMJ de Toronto. Il n'y était pas spécialement pratiquant à l'époque. Il travaillait dans l'événementiel et il est chargé par l'Église catholique de faire la promotion de la JMJ pour le diocèse de Montréal. Et il décide de quitter son métier dans l'événementiel pour faire de la communication au service de l'Église catholique, pour laquelle il travaille toujours à l'heure actuelle. Donc ça a été des choix structurants sur le long terme. Après, si on confronte les JMJ aux statistiques globales, il n'y a pas d'effet miracle des JMJ. On peut observer dans certains pays un effet de moyen terme avec une augmentation de la pratique dans les villes où ça a eu lieu. C'est frappant à Denver, par exemple. Les curés de paroisse disent qu'ils n'ont plus assez de place pour accueillir tous les paroissiens dans les semaines qui suivent la JMJ. Mais l'enthousiasme diminue progressivement et l'inversion temporaire de la courbe de la pratique n'est pas vraiment durable.
Est-ce qu'on a des chiffres concernant d'éventuelles vocations religieuses qui seraient nées au cours de ces rassemblements?
Alors, il y a quelques enquêtes qui ont été menées aux États-Unis et en France. Alors, aux États-Unis notamment, ça montrait que la moitié des personnes qui avaient envisagé une vocation religieuse, c'est pas dire qu'elles l'avaient concrétisée, avaient connu une JMJ ou un rassemblement, un grand rassemblement étudiant, puisque aux États-Unis, ils ont pérennisé la formule sous la forme de grands rassemblements étudiants qui ont lieu tous les 2 ans. Et donc ça montrait que l'événementiel religieux, le grand événement religieux, était un facteur déclenchant de considération de vocation religieuse. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que ceux qui ont une vocation religieuse sont beaucoup à avoir expérimenté une JMJ, mais les JMJ n'ont pas rempli les séminaires ni les couvents. Et de fait, même dans les villes d'accueil des JMJ, il n'y a pas de hausse spectaculaire des entrées au séminaire dans les années qui suivent la JMJ. Donc, on peut pas forcément dire que c'est les JMJ qui créent des vocations. Sans doute que les enfants de famille les plus disposés à fabriquer de la vocation, si j'ose dire, eh bien, mettent la JMJ comme un passage obligé du cursus chrétien.
La suite de l'histoire, Véronique Elzieux.
On a largement évoqué la figure de Jean-Paul II à travers ses entretiens. Charles Mercier, Jean-Paul II qui est le pape, disons, qui a vu les JMJ à proprement parler émerger. Jean-Paul II donc est mort en 2005. Est-ce que vous pensez que les JMJ lui ont survécu et que ses successeurs ont donné la même ampleur aux événements qu'ils ont accompagnés?
Oui, de ce point de vue, c'est intéressant de voir à quel point le concept s'est adapté à l'évolution physique de Jean-Paul II, parce que c'était pas gagné que les JMJ continuent à être fédératrices avec un pape âgé, quasiment grabataire en 2002, et pourtant, elles ont continué à avoir autant de succès. Elles se sont adaptées aussi à Benoît XVI, qui était beaucoup plus réservé, qui n'avait pas la formation d'acteur qu'avait eu Jean-Paul II, et qui pourtant a suscité l'enthousiasme et le ralliement des jeunes participants, donnant sans doute à la JMJ une tonalité plus intériorisée que celle qu'elle avait sous son prédécesseur. Quant à François, alors il avait participé brièvement à celle de Buenos Aires en 87, mais il n'avait pas été spécialement assidu au JMJ. Pourtant, il s'est approprié le concept avec, me semble-t-il, un désir de moduler ou de modérer l'enthousiasme autour de sa personne. Par exemple, à Cracovie, plusieurs participants avaient été frappés du fait qu'il ne passe pas en papa mobile dans les travées, pour des raisons de sécurité, mais aussi peut-être pour des raisons personnelles, choix d'éviter toute starisation ou tout culte de la personnalité pour laisser émerger le charisme au sein de la jeunesse rassemblée.
Est-ce que vous pensez que les JMJ sont amenés à évoluer sans cesse pour s'adapter à la jeunesse, pour s'adapter aussi à la réalité de l'Église et puis à cette mondialisation dont on est peut-être en train aujourd'hui de percevoir les limites aussi et les travers?
Ah oui, alors de fait, elles ont continué à évoluer puisque leur rythme a eu tendance à s'espacer. Elles sont plutôt calées tous les 3 ans à partir de 2002. Là, François a décidé de reporter d'un an la JMJ de Lisbonne en 2024, donc il se sera écoulé 4 ans et demi depuis la JMJ de Panama. Donc peut-être qu'on va vers des JMJ moins fréquentes, qui seraient du coup plus structurantes, peut-être plus exceptionnelles aussi pour ceux qui y participent. Peut-être que les JMJ des futurs, c'est des JMJ où les pèlerins ne vont qu'une fois, mais vraiment de manière extrêmement marquante pour le reste de leur itinéraire. Il y a la question de l'empreinte carbone des JMJ qui n'était pas vraiment un sujet sous Jean-Paul II et qui sans doute va être de plus en plus importante pour la génération Laudato si. Et cette question effectivement des risques des déplacements dans un contexte pandémique ou post-pandémique qui pose la question de la pérennité de ces grands rassemblements, mais qui à mon avis reste nécessaire parce que dans un monde de plus en plus diversifié du point de vue des convictions, du point de vue ethnique et culturel, je pense que les croyants d'une religion ont besoin de grands rassemblements où ils se retrouvent ensemble pour après être à l'aise dans leur environnement de plus en plus diversifié où ils sont en minorité. Et l'archipel des croyants a besoin de se rassembler à date régulière pour vivre sereinement la mondialisation, à mon avis.
Je voudrais terminer ces entretiens, Charles Mercier, en vous demandant, puisque vous avez travaillé de manière très profonde sur l'histoire de ces journées mondiales de la jeunesse, si on devait retenir un moment fort, vraiment, un moment très marquant, ou deux, de toute cette histoire, qu'est-ce que ce serait ?
Je pense que la réponse, pour le coup, elle est éminemment subjective, parce que chacun a son moment fort, et c'est ce qui m'avait frappé d'ailleurs. Quand on interroge, le CPL avait fait des enquêtes auprès des pèlerins pour savoir quel était le moment le plus fort pour eux. Chacun avait une réponse un peu différente. Pour certains, c'était l'arrivée du pape. Pour l'autre, c'était une exposition du Saint-Sacrement dans une église. Pour l'autre, la rencontre d'un habitant.
Alors pour vous
Pour moi, l'événement qui reste vraiment marqué, c'est l'arrivée du pape sur le Champ de Mars.
À Paris,
en
donc.
En 1997, oui. C'est une sorte de liesse collective qui était vraiment, tel que je l'ai vécu, extrêmement spontané et qui reste un souvenir impérissable.
On n'a pas parlé des chants, des JMJ, mais ça reste aussi quelque chose de très marquant pour ceux qui ont participé à ces rassemblements. C'est un chant qui accompagne un fil rouge, un leitmotiv pendant toute la période de rassemblement.
Oui, exactement. Alors ces hymnes des JMJ qui s'inscrivent très largement dans la pop culture, hein, ils sont relativement semblables du point de vue mélodique et du point de vue des paroles, mais effectivement ils sont associés dans les souvenirs et dans les mémoires à des images, et puis il y a aussi des répertoires musicaux qui sont pas proprement parlés des hymnes, mais qui peuvent rester des souvenirs. Moi, à titre personnel, je reste très marqué par le titre de Didi Bridgewater qui avait été composé par Eric Levy, qui s'appelle I Believe, et quand je l'écoute encore une fois, il se fait ressurgir des tas de souvenirs.
Alors on va se quitter avec ça. Un très grand merci à vous, Charles Mercier. Je rappelle que vous êtes l'auteur de L'Église, les jeunes et la mondialisation, une histoire des JMJ. C'est un livre qui est paru chez Bayard. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Bordeaux. Un très grand merci à vous d'avoir été l'invité de cette émission.
Un très grand merci à vous aussi.
Et puis je remercie également nos deux techniciens, Antoine Picot à Lyon et puis à Bordeaux, c'était Julien Rullier qui était à la technique. Merci.
Le rire des enfants dans un monde sans guerre et sans pleurs. Un jour je verrai les hommes de la terre. d'espérance.